Maud Fontenoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes navigatrice et femme politique. On vous avait découverte pour vos exploits sportifs en 2003, la traversée de l'océan Atlantique à la rame. En 2005, traversée de l'océan Pacifique à la rame. Et vous étiez cette fois la première femme à réaliser ces exploits. En 2006, tour du pôle sud à contre-courant à la voile, donc pas à la rame. Et vous êtes aussi membre du Parti Les Républicains et vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis fin 2015. Je reprends mon souffle pour dire que j'ai pas terminé. Vous venez de publier « Des tempêtes, j'en ai vu d'autres ». C'est un livre chez Plon, sous-titré « Pour une écologie sans démagogie ». Et ça démarre fort. « La pensée unique, écrivez-vous, me donne des boutons ». C'est quoi la pensée unique en matière d'écologie?
Alors ça, c'est l'introduction. Et alors, ça m'a amené justement à me consacrer à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'environnement. Et alors, la pensée unique en environnement, c'est finalement le discours qui serait de dire, pour être écolo, faut retourner vivre entre guillemets à l'âge de pierre. Pour être écolo, il faut parler aux arbres. Pour être écolo, faut refuser la voiture, refuser l'énergie, refuser évidemment le nucléaire et tout ce qui va avec dans le confort. Et il y a un peu un côté, je trouve, une certaine hypocrisie à venir sur certaines ondes à dire on est des écolos et en même temps à dire c'était mieux avant. Alors j'ai envie de leur dire, mais avant quand? Est-ce que avant c'était en 1750 quand l'espérance de vie elle était de 27 ans en moyenne? Non, personne ne veut revenir à c'était mieux avant.
Page 14, vous écrivez, dans le domaine strict de l'écologie, on ressasse toujours les mêmes choses, négatives de préférence, en vérifiant rarement ses sources et en espérant faire le plus de buzz possible. À quoi vous pensiez en écrivant ça?
On instrumentalise la peur pour en faire un élément électoraliste. Donc en fait, on va vous alarmer sur tout ce que vous avez dans vos assiettes, c'est du poison. On va vous dire le nucléaire, attention, ça va bientôt exploser, on va tous mourir. On va vous dire bientôt, on va faire des trous partout pour vous exploiter du gaz de schiste, vous vous rendez pas compte à quoi va ressembler votre jardin. On va vous dire, on vous fait manger des OGM, même rien que le mot, ça ferait peur à un enfant. Enfin, voilà, on est toujours dans un souci alarmant, culpabilisant, et je trouve que c'est pas comme ça qu'on fera agir, ni moi ni vous, sur les sujets environnementaux.
Vous dézinguez les écolos radicaux de gauche, c'est vous qui les appelez comme ça, que vous qualifiez aujourd'hui de marchands de soupe esselés. Mais alors parfois on a du mal à vous suivre. Par exemple, vous reprochez aux écolos d'instrumentaliser les sujets à des fins électoralistes. Sauf que la preuve que non, s'ils avaient été électoralistes, ils auraient choisi Nicolas Hulot et non pas Eva Joly pour les défendre à la présidentielle de 2007.
Ah ben je sais pas, c'est à eux de voir. Moi je pense que Nicolas Hulot a fait plein de choses positives, Eva Joly a probablement essayé à sa façon d'en faire aussi. Visiblement c'est surtout le discours qui fonctionne pas.
Non mais s'ils avaient vraiment pensé qu'à l'élection, ce qu'on appelle un discours électoraliste, ils auraient mis leur meilleur candidat.
C'est pas ce qu'ils ont considéré, puisqu'ils ont considéré que Nicolas Hulot était le candidat des lobbies, le candidat de l'argent, et que tout ça les répulse.
Il y a 100 propositions à la fin de votre livre, on peut pas toutes les citer. Est-ce que vous avez une préférée?
Je pense qu'aujourd'hui, le problème de notre siècle, c'est comment est-ce qu'on va arriver à gérer les déchets de bientôt 11 milliards de personnes, et comment on va arriver à transformer le problème pour que notre déchet devienne une ressource. Et c'est tout ce que fait l'économie circulaire, et c'est réfléchir à observer un peu plus attentivement la nature et à voir que dans la nature, il n'y a pas de poubelle. Et qu'en réalité, un déchet va devenir une ressource et tout ça indéfiniment.
Mais
et
ça,
que
ça finalement, se fait déjà.
Ben ça se fait malheureusement pas suffisamment. Et je vois par exemple la région PACA pour laquelle je me suis engagée, on est vraiment les derniers au niveau recyclage. Donc il y a encore des gros efforts à faire. Mais quand on comprendra que c'est de l'argent que de recycler, je pense qu'on arrivera à le faire.
Je vais pas toutes les citer. Quatre. C'était comme pour les fonctionnaires du temps de Sarkozy. Pour toute nouvelle loi votée, deux d'entre elles doivent être supprimées.
Ben c'est vrai qu'il y a sur les normes environnementales quelque chose qui est assez lourd au niveau normatif, au niveau réglementaire, au niveau décret. On a le sentiment que l'écologie, finalement, c'est une superposition de normes, de règles, de choses que des contraintes.
L'écologie punitive.
L'écologie punitive et une certaine régression. Et du coup, c'est vrai que se dire qu'on va alléger un peu tout ça et qu'on ça soit pas une pression supplémentaire, c'est pour ça que je suis pour que l'écologie reste quelque chose de fort dans un gouvernement et qu'au contraire, on ne la mette pas de côté en disant on arrête. N'arrivera jamais à se concilier avec l'écologie. Non, c'est à l'écologie de se réconcilier avec tous les autres sujets et tous les autres, en gros, ministères.
Maud Fontenoy avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Maud Fontenoy avec nous, Des tempêtes, j'en ai vu d'autres, c'est son dernier livre, c'est sous-titré « Pour une écologie sans démagogie ». Ce titre quand même, Des tempêtes, j'en ai vu d'autres, pourquoi un titre aussi négatif? On sait bien à quoi ça fait référence, les tempêtes c'est tout ce que vous avez vécu dans les océans, vous êtes retourné 1000 fois, vous avez failli mourir, vous êtes là avec nous, et tant mieux. Quelle tempête affrontez-vous désormais?
Ouais, les tempêtes, c'est parce que c'est vrai que l'engagement, quel qu'il soit, c'est un engagement qui est pas simple. Et l'engagement politique, c'est probablement l'un des engagements les plus difficiles. Moi, je me suis jamais sentie aussi seule. J'ai eu beau avoir traversé tous les océans de la Terre en solitaire pendant des mois sur des tout petits bateaux à ramer 8 à 10 heures par jour. Je me suis jamais sentie seule que dans un milieu d'un meeting avec des milliers de personnes. L'engagement pour les autres, pour la société, pour la politique est un engagement très, très difficile. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux expliquent les sacrifices que ça peut demander au niveau familial et autres. Il faut que votre volonté de faire changer les choses soit plus forte que tout.
Ça allait être ma question, pourquoi vous l'avez fait? Vous disiez en 2015, en politique, il n'y a que des coups à prendre.
Oui, j'en suis encore persuadée. C'est-à-dire que je pense que quand on a envie que ça change, quand on dit sans cesse « il faudrait que ça soit comme ci, j'aimerais que ça soit comme ça, pourquoi ils ne font rien ?» Si on vous propose un jour d'y aller, c'est quand même pas très courageux de dire qu'on baisse les bras. Donc moi, je pense qu'il faut pouvoir y aller.
Il paraît qu'on vous a proposé le secrétariat à la jeunesse et au sport en 2007 et que vous l'avez refusé.
Ah ben comme vous dites, on dit il paraît.
Elle vous a dit que c'était vrai une fois.
Non, c'est
des vous l'avez reconnu dans Libération le 24 novembre 2007. Vous avez même expliqué pourquoi vous aviez refusé.
Non, de toute façon, la question n'était pas là. Je pense que les enjeux politiques sont aussi
La question, elle était là. Vous avez dit, voilà pourquoi j'ai refusé.
Non, parce
je
que
rentre...
Déjà, j'ai jamais expliqué ça, mais bon, les choses peuvent être racontées comme on le souhaite. Mais la problématique, elle est, quand est-ce que vous voulez faire quelque chose et comment vous pouvez le faire? L'idée, c'est, est-ce que je peux être utile à quelque chose?
Il y a plein d'autres choses dans ce livre. Une anecdote incroyable. Vous êtes dans la loge avec Nicolas Sarkozy. Il y a des ténors du Parti Républicain. Nicolas Sarkozy mange un sandwich. Un ancien ministre et pas des moindres, écrivez-vous, assis dans un fauteuil, sans un mot, tend son bras avec son verre vide à destination du maître d'hôtel afin qu'il le remplisse. Nicolas lui dit alors gentiment mais fermement, lui c'est Ludovic, vous confirmez?
Oui.
Il connaît le nom de tous les serveurs?
Je confirme dans ce livre que je raconte beaucoup de choses et notamment des petites anecdotes comme celle-ci qui a fait que je pense que quand on s'engage, mais qu'on s'engage dans un boulot, dans une vie de famille ou ailleurs, on s'engage pour quelqu'un. Ouais. Moi, je me suis engagée pour Nicolas Sarkozy parce que c'est quelqu'un qui m'a aidée au moment des difficultés que j'ai pu rencontrer avec mon petit garçon. Et c'est quelqu'un que j'ai vu travailler et qui m'a assez interloquée dans sa façon d'être très attentif aux autres, d'être hypermnésique. Vous savez, une très grande capacité à retenir les choses.
Il se rappelle de tout.
Il se rappelle de tout et d'avoir une très grande sensibilité par rapport aux gens.
Nicolas Sarkozy connaît le nom de tous les serveurs, il est hypermnésique, vous l'avez dit, mais il a dit au journal de 20h qu'il n'avait jamais entendu ni mémorisé le nom de Big Malion avant que l'affaire n'éclate dans les journaux. Comment est-ce possible?
J'en ai sincèrement aucune idée.
Parce que même moi, je le connaissais ce nom, et lui qui est hypermnésique, le connaissait pas. Ouais. Alors qui sait que le serveur s'appelle Ludovic?
C'est probablement une bonne question de votre part.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de votre part.
Oui, mais moi, je
vous en pensez quoi?
Je ne sais pas, je n'étais pas engagée à
il a entendu
côtés.
Le nom, il l'a oublié.
Très honnêtement, c'est une histoire qui est compliquée, que personne ne comprendrait. De toute façon, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, visiblement, ne fait plus vraiment de politique.
Non, je vous demandais, c'est possible qu'il ait oublié un nom comme ça.
Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que d'être président de la République, et encore moins d'être en campagne, et donc je ne sais pas.
Non, je ne vous parle pas de ça.
Moi, je ne l'avais pas entendu, ce monde, donc moi, je ne sais pas. Moi, je ne connaissais pas ces gens. Donc, est-ce que lui, il le connaissait? Je ne sais pas.
Il y a quelque chose à faire, et je suis absolument avec vous, et c'est d'autant plus difficile dans la position où vous êtes, si vous êtes une jeune femme. Pas laide, je dis ça en étant extrêmement respectueux. Vous écrivez dans le chapitre « Être une femme », page 93, « En politique, aussi primaire que cela puisse paraître, on claironne partout que vous avez couché pour réussir à vous hisser là où vous êtes. » Vous en avez ça vous fait rigoler, mais vous en avez vraiment souffert.
Non, honnêtement, c'est pas ça qui fait le plus souffrir, mais c'est-à-dire que c'est la caricature. C'est drôle, parce que je veux dire, tu te dis, mais ça c'était avant. Mais non, c'est maintenant. T'as toujours la même caricature. C'est-à-dire que quand tu vois une réunion publique ou quand tu vois une estrade, tu as 10 mecs, t'as une femme. T'as toujours les mêmes remarques sexistes. T'as toujours aussi peu de jeunes. Les caricatures sont tout le temps là, et pourtant ça change petit à petit, mais c'est long.
Maud Fontenoy avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Maud Fontenoy avec nous sur France Info. En faisant de la politique, vous êtes fait des ennemis. Je ne vais pas tout relever ici parce qu'il y en a trop. Une question qui se pose tout le temps, pourquoi votre fondation est basée en Hollande et pas en France?
Oh, parce qu'elle est aussi en France, enfin, elle a deux entités.
Oui,
absolument. Donc elle a une activité en Hollande, elle a une activité en France, voilà. Mais c'est pas vraiment un vrai sujet. L'important, c'est d'essayer de faire passer un message.
Ah bah si, c'est un sujet. Si on se présente en France, on fait les choses en France.
Oui, mais on peut le faire partout. Enfin, je veux dire, moi j'ai des activités, on l'a fait aussi à San Diego avec beaucoup d'écoles. Je finance un orphelinat à Madagascar dans lequel on travaille énormément depuis 5 ans. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire partout. La France, on a également besoin parce que je trouve qu'il devrait y avoir un grand programme à l'environnement dans l'éducation nationale de façon officielle.
Vos parents vous ont élevé sur un voilier, tout le monde le sait. Était-ce à partir de l'âge de 7 jours ou à partir de l'âge de 7 ans?
Ah non, 7 jours. Je suis partie à 7 jours traverser l'Atlantique pour la première fois avec ma famille, oui.
Est-il vrai que vous étiez la seule de la famille à avoir le mal de mer ?
Vrai. Non, avec ma maman. On était toutes les deux. Et maman, quand j'ai traversé l'Atlantique et j'étais un tout petit bébé, elle raconte qu'il y avait Maud bébé dans un coin en train de lui donner le bibi. Et puis, il y avait le seau pour vomir de l'autre côté.
Mais alors, pourquoi vous avez continué là-dedans ?
J'adore la mer. J'adore l'espace de liberté que représente l'océan.
Et vous avez toujours le mal de mer ?
Oui, toujours.
C'est pas
vrai. Les 3 premiers jours. Alors, c'est-à-dire que ça passe. J'ai 3 jours de mal de mer, après ça passe. Mais ce que j'aime, c'est l'idée de la persévérance et d'aller au bout d'un chemin, au bout d'une quête.
Est-il vrai que quand vous étiez petite, vous étiez excessivement timide ?
Vrai, je me suis évanouie lorsque je suis allée pour la première fois à l'école en terminale. Quand le professeur a dit mon nom et m'a à peine proposé de me lever, je me suis levée, je me suis évanouie tellement que je ne supportais pas le regard des autres.
Mais alors comment vous êtes devenue cette grande gueule que vous êtes maintenant ?
Non, je suis toujours la même, mais je suis, vous voyez, voilà, j'essaye de...
Non mais alors qu'est-ce que vous avez fait de votre timidité ? Où est-ce qu'elle est passée ?
Elle est toujours là. Moi, je rougis en 2 secondes 50, mais je la cache maintenant. J'arrive un petit peu à jongler avec. Et...
Est-il vrai que votre premier boulot à Paris, c'était dans l'une des agences immobilières de votre père ?
Oui, absolument.
C'était un vrai travail.
Absolument.
Parce qu'il y a des gens qui font travailler leurs enfants.
Oui, c'est vrai, pareil.
Et ils ne travaillent pas.
Oui, oui. Non, ouais, c'était un vrai boulot payé au SMIC pendant un moment donné. Ouais, ouais.
Est-il vrai, ou plutôt, qu'y a-t-il écrit comme profession sur votre passeport ?
Navigatrice ?
Waouh, ça passe ?
Oui, oui, ça passe très bien.
Vous êtes combien dans le monde à être navigatrice ?
Ça n'existe même pas sur l'iPhone. Vous savez, l'iPhone, quand on veut écrire le texto, ça te dit navigateur. Il n'existe pas, le navigatrice, c'est un drame, ça.
Vous avez 3 enfants,
vrai.
Avec 3 pères différents.
Vrai.
Vous donnez facilement leur nom, mais jamais le nom des pères. Est-il vrai que vous faites un procès si un journal les donne ?
Non, je vais
moi,
pas.
Moi, je les ai pas, hein, de toute façon.
Tout le monde s'en fiche, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est aux pères d'en parler s'ils ont envie, et puis ça n'intéresse personne. Et l'idée, c'est pas de faire des procès. Je déteste ça. Moi, j'aime pas le conflit. Donc.
Attention, j'ai lu ça dans l'Express, qui est un journal sérieux en 2011.
Oui. Ah oui, je me souviens de cet article. Attention.
Est-il vrai qu'à l'occasion des Music Awards en 2008 à Cannes, je les cite, Maud Fontenoy a demandé au père de son fils de marcher 10 mètres derrière elle pour éviter qu'il n'apparaisse sur les photos.
Non, c'est évidemment faux. Lui-même étant photographe, donc je pense qu'il faisait plutôt des photos ce jour-là. C'est peut-être pour ça qu'il marchait 10 mètres derrière pour faire la photo ou 10 mètres devant, je ne sais pas.
Comment ça c'est se vraiment... passe ensuite Vous appelez le journal, vous protestez, qu'est-ce que vous dites après ?
Oh, ben ils s'excusent, ils disent mais on n'a pas fait attention, on n'a pas vu, puis bon, c'est grave, c'est pas si grave. Enfin voilà, je me souviens très très bien. Très très bien de cet article et très très bien de ma conversation dans un ascenseur avec M. Barbier qui m'a dit non, écoutez, il y a même ma maman qui était là, il dit écoutez, madame Fontenoy, je suis désolée, mais vous savez, c'est pas grande importance. Voilà.
Christophe Barbier, le patron de l'Express. Est-il vrai que quand vous ne savez pas quoi faire comme menu, vous faites du riz au lait ?
Oui, le riz au lait, c'est un plat typique familial sur le bateau.
J'adore, parce que là, ça ne vous gêne pas de répondre.
Ah non, mais c'est vrai, le riz au lait, c'est top. C'est, sur un bateau, c'est hyper efficace.
Est-il vrai que chez vous, jamais vous ne prenez de bain ?
Ah oui, je déteste ça, je m'ennuie dans une baignoire.
Ah, c'est pour ça ?
Non, c'est pour des questions écologiques, naturellement.
Ah, je croyais que c'était écolo, moi.
Mais
la journaliste qui vous demande ça, vous lui avez répondu, ça va pas la tête.
Non, mais bah oui, parce que il faut économiser l'eau, mais il suffit que t'aies un économiseur d'eau dans ta maison pour essayer d'économiser. Moi, je suis pas de celle qui va vous dire, faut arrêter de prendre des bains. Le mec, il adore prendre des bains. Il va lui dire, surtout, vous prenez pas de bains. T'es un mauvais méchant si tu prends des bains. Moi, personnellement, je m'ennuie dans un bain. Je préfère prendre des douches. Et voilà, mais je culpabilise pas plus les gens qui prennent des bains.
Merci beaucoup, Maud Fontenoy, d'être venue nous voir.
Avec plaisir.